L'histoire des religions avec Bernard Vachereau, curé de Caylus, les origines du christianisme, tous les mardis à 12h35. Sur CFM. C'est une émission dans laquelle mon absence de connaissance de ces sujets-là me permet de poser des questions tout aussi naïves que l'érudition du père Bernard Vachereau qui nous fait le tour d'horizon des intellectuels qui ont marqué la période de la vie du Christ et qui lui ont succédé, c'est-à-dire qui ont recueilli ses paroles, tous les textes fondateurs de l'Église. Le père Vachereau nous montre qu'il y avait des débats. Et que des grands hommes ont émergé, laissant des textes faisant référence et faisant débat.
Oh oui, il y a eu des débats. Ha ! Le Concile de Jérusalem, vers 48 après Jésus-Christ, voit carrément l'opposition de Paul avec Barnabé contre Pierre. Paul et Barnabé sont partisans de l'ouverture d'esprit et de liturgie et de pratique aux gentils, au point, par exemple, de supprimer des traditions très anciennes du judaïsme, comme la circoncision, comme l'obligation des prières juives, etc., etc. Tandis que Pierre et ses disciples, eux, veulent le maintien de ces pratiques.
Alors, presque ça voudrait dire que les non-juifs ne peuvent pas être convertis.
À la limite, c'était ça, le danger. C'était ça. Or, pour finir, Pierre était quand même ouvert aux questions posées par Paul et Barnabé, et le Concile de Jérusalem, ou enfin ce qu'on appelle la Réunion de Jérusalem, a finalement permis qu'il y ait toutes les suppressions qui empêchaient les gentils, hein, de venir au christianisme.
Alors, imaginons que la question n'ait pas été tranchée dans ce sens-là. Ça voulait dire que le christianisme aurait pu n'être qu'une religion de juifs.
C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y avait, par exemple, chez les Docètes, la tentation d'en faire une branche du judaïsme officiel.
Ça veut dire, par soustraction, que c'est la foi en Jésus qui compte d'abord.
Absolument. Et d'ailleurs, à ce propos-là, non pas le premier pape de Rome, le premier pape de Rome, c'était Clée, qui a été, mais duquel on ne sait absolument rien, au point de vue historique, Clée, qui a été nommé par Pierre, enfin, après Pierre, plus exactement. Bon, tandis que le premier pape qui a laissé des écrits, qui a laissé une pensée très solidement construite, a été Clément de Rome. Clément de Rome qui a été pape de 91 à 100 après Jésus-Christ. Et c'est intéressant parce que nous relevons que au moment où Clément de Rome est pape, Jean l'évangéliste écrit son évangile et écrit son apocalypse, puisque Clément de Rome, c'était de 91 à 100, tandis que Jean, l'évangéliste, écrit son évangile et son apocalypse vers 95 après Jésus-Christ, donc sous le pontificat de Clément de Rome. Hein? Alors, Clément de Rome a écrit un ouvrage, enfin une lettre, qui s'appelle la première Clémentine, ne pensez pas aux oranges, la première Clémentine, non mais je vous voyais venir. Et il écrit, il l'adresse aux Corinthiens, parce que à Corinthe, on discutait beaucoup sur la manière d'être chrétien. Hein, il y avait de grandes divisions. Et il décrit, Clément de Rome nous décrit le christianisme primitif. Mais comment fait-il ? Eh bien, il utilise l'Ancien Testament et le judaïsme, parce qu'il est lui-même très profondément ancré dans la tradition juive. Et en fait,
il plagie l'Épître aux Hébreux.
Pas loin. Et il est inspiré de culture grecque. Ben oui, dans sa culture, justement, juive, il est inspiré de culture grecque. Et il a une passion notamment pour l'harmonie. Ça, c'est tout à fait la pensée de Platon. Hein? Et puis, avec ça, il est fasciné par le stoïcisme. Ouais, c'est un personnage curieux au point de vue intellectuel. Hein. Il est fasciné par le stoïcisme. Et devrais-je ajouter qu'il est passionné, alors ça c'est le côté discipline, si vous voulez, du mouvement, organisation, il est passionné par la discipline de l'armée romaine. Bon, c'est dire que déjà Clément a, dans la foulée de saint Paul, le goût de l'organisation. Hein ? Il va organiser, il va structurer ce que saint Paul avait déjà commencé d'organiser et de structurer.
Alors, est-ce que c'est pas finalement de cette époque-là que, d'évêque de Rome, on commence à penser à la papauté
question fascinante, mon cher. Parce que le, le mot de pape vient du grec papas, qui veut dire, parce qu'on a dit pater noster, le père, ouais. Mais allons un peu plus loin que ça. En grec, ça veut dire le père, mais au sens de la paternité spirituelle. Ce qui est sensiblement différent.
Alors, attendez, parce que le Notre Père, on devrait aussi raisonner comme ça. C'est une paternité spirituelle, pas...
C'est... Ah, là, vous allez très loin dans le domaine de la théologie.
Ah, excusez-moi. Bon. Excusez-moi.
Très loin.
Je le ferai plus.
Alors, revenons au papas. Là, d'ailleurs... dans la tradition, le pape est d'abord évêque de Rome. Et il est donc papas, parce que le terme de père a été le terme, papas, donc grec, a été le terme par lequel on a commencé par désigner les évêques. En grec pur, l'appellation d'épiscopos est légèrement plus tardive que l'emploi du terme papas, hein. Donc c'était une paternité spirituelle de l'Église.
Mais en même temps, on ne pouvait pas m'empêcher de penser que, à partir du moment où on est dans une société patrilinéaire, où le père de famille est celui qui a l'autorité,
oui.
Ça veut dire que considérer que l'évêque de Rome est un pape, ça veut dire qu'il a autorité sur l'ensemble des autres évêques.
Absolument.
D'où naît une hiérarchie.
Et au début, il était considéré disons-le en latin, primus inter pares, c'est-à-dire premier entre ses pairs, hein, ses égaux.
Puisqu'il était élu en plus.
Voilà. Et les pairs étaient les cinq patriarches qui étaient les chefs des églises chrétiennes, hein. Alors, il est toujours considéré canoniquement comme primus inter pares.
C'est-à-dire là, vous avez employé le terme de chef d'église, c'est-à-dire que là où il pouvait y avoir autorité spirituelle, reconnue, etc.
On est dans la constitution.
On a des termes, et c'est pas par hasard que Clément est fasciné par la discipline militaire.
Tout à fait.
En fait, on a des termes qui sont des termes de pouvoir et plus seulement d'autorité.
Obligatoirement,
me dit-il. Bon, alors racontez-moi ça. Pourquoi c'est obligatoire ?
Dans
le monde des idées, pourquoi il y aurait un pouvoir ?
Non, mais dès que vous avez une autorité quelconque, quelle qu'elle soit, en quelque domaine, vous avez forcément un pouvoir. Bon, prenons un professeur d'université.
Vous avancez beaucoup, là.
Un professeur d'université. Bon, le professeur d'université est reconnu par ses diplômes, par son doctorat, sa thèse, etc.
Il a donc une autorité.
Il a un pouvoir sur ses élèves, forcément. Ah oui, il enseigne. Bon. Mais même ceux qui n'ont pas voulu parler de pouvoir, je pense à Jean-Paul Sartre, ont exercé un pouvoir intellectuel quand même sur leurs disciples, certaine matière.
Une autorité, voilà. Ça suffirait comme terme.
Oui. Quelle est la distinction parfois très
mais expliquez-moi pourquoi les évêques qui pouvaient avoir une autorité spirituelle, surtout ceux qui leur reconnaissaient cette autorité, c'est-à-dire qui se considéraient comme appartenant à la communauté, se sont retrouvés à pouvoir, lever l'impôt.
Mmh. force pour éclairer l'avenir sombre et rebâtir sur les décombres des forces comme un grand vent sur notre histoire pour la souveraine mémoire contre le chaos qu'on nous vend avec l'argent que l'on nous prend pour en finir avec l'espoir et remonter le fleuve noir des forces. Pour chanter notre bel abîme, être pauvre n'est pas un crime. Des forces pour éveiller l'homme endormi par la fatigue et par l'ennui. Pour tous ces peuples qu'on oublie dans le bruit des démocraties. Pour empêcher les indécis d'être du côté des fusils. Des forces. Car savez-vous que le temps presse, entendez-vous les SOS? Des forces contre le silence complice de nos médias, de nos polices, contre la morgue des artistes, ces fabricants de marchandises qui vendent leur fausse innocence à ceux qui mesurent l'audience. Des forces. Comme des soleils tatoués sur des plaies jamais refermées. Des forces pour que je t'aime après 100 ans, pour le vertige des amants, pour le salut des nouveaux anges, pour le miracle des mélanges, pour vivre contre des idées et réapprendre à se lever. Et réapprendre à se lever.
Des forces, Bruno Ruiz sur CFM, dans l'émission consacrée à l'histoire des religions. Nous en étions avec le père Bernard Vachereau, curé de Caylus, à nous demander comment les intellectuels qui font débat dans la communauté chrétienne du 1er siècle pouvaient traiter des choses matérielles.
Dans l'organisation d'une communauté, une communauté est forcément aussi obligée de s'intéresser aux choses les plus basiques de la vie. Bon. Saint Paul, d'ailleurs, lui-même lance le mouvement.
Parce que les choses spirituelles ne suffisent pas à nourrir.
En donnant au diacre la fonction d'être chef de la table et organisateur matériel de la communauté. Et à un moment, dans un des écrits des Actes des Apôtres, on voit qu'il y a la question, qui est posée d'ailleurs par des membres de la communauté, qui n'ont pas voulu payer ou donner leur héritage à la communauté, puisqu'on mettait tout ensemble. Et il est tranché que ceux-là seront exclus. Ben oui, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. On vit aussi du pain quotidien.
Et tout ça se passe à peine un siècle après la mort du Christ.
Immédiatement,
l'Église s'organise de manière autonome et trouve les moyens de son existence.
Déjà, le Christ, quand il y a eu, on le voit dans l'Évangile, quand il y a eu le rassemblement sur la montagne de toute une foule, on dit 5 000 pour dire un nombre incalculable, et qu'il se trouve avec 5 pains et 2 poissons. Et il dit, c'est tout ce que vous avez à donner, à bouffer à ces pauvres gens, mais ils ont faim. Ah, mais on n'a rien d'autre. Allez le chercher, dit-il. Il les envoie. Il envoie qui? Les disciples, les apôtres. Il leur voit chercher. Ils sont envoyés auprès de l'humanité, en somme, quoi, pour chercher la nourriture matérielle. Et oui, le Christ s'intéresse pas qu'au spirituel, s'intéresse aussi au matériel des hommes. Alors, dès le départ avec le Christ, la chose est lancée. Un processus d'organisation se fait. Le Christ le dit, c'est en Matthieu 16. Il dit à Pierre, « Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église », au sens de communauté.
Alors que je vous comprenne bien, les braves boucres de juifs à l'époque, vivaient leur vie sous occupation romaine,
oui,
dont je suppose que les Romains prenaient pas de gants pour se servir.
Ils prenaient pas de gants, ils étaient quand même aussi d'une certaine délicatesse, faut pas non plus les noircir abusivement.
Ouais, enfin, je suppose qu'un empire...
Non, il ne prenait pas de gants.
prélevé.
Il ne prenait pas de
se, se retrouve avec une église fondée par quelqu'un en qui ils espéraient le Messie, un libérateur, et cette église-là s'instaure aussi sous prétexte qu'elle a des textes, qu'elle a des échanges à faire, des débats et des machins, et elle est au-dessus de, d'aller travailler la terre ou des choses comme ça, pour que nous puissions avoir une vie autonome dans le monde des idées, dans le recueillement, dans la pensée du Christ, etc., il faut bien que nous soyons détachés des problèmes matériels. Et en clair, on va vivre aussi sur la bête.
Ah, erreur, grande erreur. Grande erreur de Jules.
Espérons.
Non, mais là, c'est un peu une provoque de votre part, je vois. Je m'en amuse, d'ailleurs.
Bon.
Grande erreur, puisque, justement, on prenait tellement soin du côté matériel de la communauté, c'est qu'on a toujours considéré qu'il n'y avait rien d'avilissant à exercer. Saint Paul lui-même exerçait des métiers manuels. Bon, Saint Paul ne vivait pas de la communauté. Quand la communauté lui donnait quelque chose, il prenait ce quelque chose, mais autrement, il vivait de son métier manuel.
Oui, Saint-Paul, bon.
Bon,
bon va tout, pour Saint-Paul.
Mais tous les autres, toute la communauté.
Les évêques, arrêtez.
Mais les évêques avaient des métiers aussi manuels. Bon, ils... Ah, mais oui.
Je ne sais pas vous accuser de mauvaise foi, mon
non,
père.
Non, mais ils étaient tout à fait capables de travailler.
D'accord, capables de travailler, il n'y a pas de problème.
Bon. Prenons par exemple Cyprien de Carthage. Cyprien de Carthage, qui a vécu au IIIe siècle, 250 à 258, enfin c'est le temps de son épiscopat. Bon, c'est un converti au christianisme. Il n'était pas chrétien d'origine, c'est un converti qui avait une profession. Sincèrement, je ne vais pas vous mentir, j'ignore quelle était sa profession, mais je sais qu'il avait une profession. Bon, et il a été... évêque de Carthage, il a écrit un ouvrage qui s'appelait « De unitate ecclesiae », de l'unité ecclésiale, bon, de, ou de l'Église. Et il a été très influencé par Tertullien. Tertullien, dont nous allons parler plus loin, et qui a été vraiment un très grand penseur de l'Église. Et il a marqué les donatistes. Alors, les donatistes, c'était un groupe qui avait été fondé par un certain Majorinus, hein, au IVe siècle, et pour eux, la validité des sacrements dépendait de la sainteté du prêtre qui les donnait. Bon, vous comprenez que cette exagération pouvait être qualifiée d'hérésie.
Schismatique, au moins.
Au moins d'hérésie, bon, hein. Alors, ce Cyprien de Carthage avait gagné son pain par son propre travail aussi. Attention. Alors, je vous ai promis que nous parlerions de Tertullien. Tertullien, qui a vécu entre 160 et 220, à peu près, était de Carthage. Alors lui, c'était un juriste, un homme de loi, un rhétoricien et, au point de vue intellectuel, un helléniste, et lui aussi a été converti au christianisme. N'oublions pas que c'était, je vous le dis, quelqu'un qui gagnait sa vie comme juriste. Bon.
Ouais, enfin, son père était centurion quand même.
Ah, mon cher, là, vous en savez plus que moi.
Ah, ben ouais, mais ça donne une certaine aisance, non ?
Bien. Alors, ça donne une aisance, ça n'empêche pas le travail. Et il est devenu un très grand théologien, ayant surtout travaillé sur la Trinité, ce qu'on appelait les hypostases, c'est-à-dire, par exemple, les degrés qui procèdent, comme on dit, hein, les degrés entre les trois personnes divines. Et il a insisté non seulement sur la distinction dans les degrés, mais surtout sur l'unitas, c'est-à-dire l'unité qui existe entre les trois personnes divines. Donc, distinction et unité. Hein, ça, c'est très très fort dans la théologie de Tertullien. Bon. Et Tertullien a ensuite été un personnage vraiment formidable. Il s'est opposé aux hérésies. Pourtant, il s'est orienté vers le montanisme. Ah !
Le montanisme, voilà autre chose encore.
Alors, Monsieur Montand, hein, qui n'était pas Yves Montand, Monsieur Montand, lui, était un personnage qui venait justement du Proche-Orient. Pour les montanistes, l'Esprit Saint parle directement aux croyants sans avoir besoin d'autorité ecclésiale. Vous voyez que c'était contesté, hein, l'autorité. Bon. Et à qui parle-t-il? Il fallait bien qu'il parle à quelqu'un, l'Esprit Saint. Eh bien, d'après Monsieur Montand, il parlait à deux femmes. L'une s'appelait Maximilia et l'autre Priscilla. Bon. Ces femmes, d'après Montand, auraient été touchées de grâces extatiques, c'est-à-dire les extases, les connaissances. Bon. Et apocalyptiques. N'oublions pas que l'Apocalypse est d'un des très grands thèmes de l'époque de réflexion. On avait peur toujours de la fin des temps, on l'attendait, et la venue de ce que certains considéraient comme le Messie ne faisait qu'accélérer les choses dans les esprits.
Bon, nous, on ne doit pas avoir peur de la fin des temps, mais quand même de la durée de cette émission qui va bientôt toucher à sa fin. Tertullien, vous nous l'avez pas dit, mais enfin, c'est un des premiers à rédiger en latin.
Oui, exactement. Voilà. Exactement. C'est pour ça que j'ai parlé d'Unitas, d'ailleurs.
Voilà pourquoi il a aussi laissé beaucoup de traces.
Et je voulais terminer en disant que il était un homme de dialogue. Il était passionné par le dialogue avec les hérétiques et les non-croyants, même si par moments il se montrait un peu fanatique.
Hein? Un peu fanatique, mais bon, il supportait pas non plus qu'on révère l'or et l'argent, non?
Ah non, pas du tout. Il n'aimait pas du tout ça, ce genre de culte. Hein.
Voilà, bon, pour Tertullien, c'est fini pour cette fois. La prochaine émission, vous allez nous la démarrer avec quoi, le savez-vous?
Eh bien, mon cher, la prochaine émission, je suis un homme de dialogue, et donc ouvert à la demande que vous me ferez.
Voilà, c'était Histoire des religions avec le père Bernard Vachereau, curé de Caylus. À la prochaine émission.
Merci, mes amis.
L'histoire des religions avec Bernard Vachereau, curé de Caylus. Les origines du christianisme. Tous les mardis à 12h35. CFM